والتدمير والتهجير والاغتيال وسفك الدماء للقضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل.
Bonsoir à tous, il est 21h30 et Radio Grenouille est en direct de la Fondation Vasarely pour un dernier volet autour du festival Seconde Nature qui se déroule jusqu'à samedi. Ce soir, des musiciens libanais se produisent sur les pelouses de Vasarely et sur les 3-8, on en profite pour déplacer notre regard vers Beyrouth avec une émission spéciale consacrée à la scène artistique libanaise. Évoquer Beyrouth en quelques mots revient souvent à parler de guerre, de tensions politiques, d'insécurité, mais aussi de bouillonnement culturel. Les projets artistiques indépendants et alternatifs se multiplient dans un contexte politique et social pour le moins délicat. C'est donc ce fil qu'on va essayer de tirer pendant cette petite heure pour parler de la culture alternative libanaise, de ses conditions de production et de diffusion et des relations entre l'art et la guerre. Nous accueillons sur ce plateau Ziad Naoufal, qui anime sur Radio Liban la seule émission libanaise de musique indépendante et qui s'occupe du magasin La Cédétech, un lieu important pour la promotion de la musique libanaise alternative. Nous sommes aussi en compagnie de deux musiciens, Jade, DJ incontournable de l'électro libanais, et Charbel Haber, qui est actuellement sur scène et nous rejoindra un peu plus tard. Alors bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Depuis la fin des années 90, le Liban voit sa scène culturelle indépendante s'agiter. La plupart de ces artistes sont nés et ont grandi pendant la guerre civile. En quoi le contexte de tension et d'instabilité redonne une énergie à l'expression artistique? Je ne sais pas qui va se lancer. Jade ou Ziad? Allez-y.
Je pense qu'il y a eu une période où on ne pouvait pas s'exprimer autrement. Il n'y avait pas trop de débouchés, il n'y avait pas assez de choses à faire. Donc il y a eu un mouvement. Les gens restaient chez eux, les gens écoutaient de la musique, écoutaient beaucoup de musique. Et il y a eu des petits musiciens qui ont commencé il y a 15 ans et maintenant la scène a grandi. Je pense que à cause de tout ce qui se passait autour de nous, on essayait de trouver tous nos propres choses à faire.
Et les artistes se sont inspirés de cette situation politique, sociale, géopolitique aussi?
Déjà, il y avait quelque chose duquel on pouvait parler, autre que l'amour et je t'aime et tout ça. Déjà, il y avait un thème qui... on a vécu plein d'expériences et inconsciemment, c'est comme ça qu'on les sortait, qu'on les faisait sortir.
Et pendant la guerre de l'été 2006 entre Israël et le Hezbollah, certains lieux alternatifs sont restés ouverts et de nombreux artistes ont continué à créer depuis Beyrouth. Pour vous, c'était une façon de résister?
C'était une façon de résister, oui, c'était aussi une façon d'exprimer notre désarroi par rapport à ce qui se passait autour de nous. Je pense pour les quelques groupes qui ont enregistré aussi des disques durant cette guerre, c'était aussi une façon de sortir toute la peur, toute la colère qu'ils avaient en eux. Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan artistique pendant cette guerre, concrètement?
Il y a eu beaucoup de gens qui ont refusé de quitter, qui ont refusé d'évacuer. Au fait, évacuer était un terme assez à la mode durant cette période. Donc, il y a eu des gens qui ont essayé de faire de répondre à leur propre façon. Il y a eu plein de blogs. On a vu plein de blogs qui émergeaient par ici et par là, et plein d'artistes qui produisaient et mettaient toutes leurs pièces sur les blogs. Et puis, bien sûr, c'est une façon de survivre au lieu de au lieu de déprimer, de d'être passif. On essaie d'être un peu plus créatif.
Et toi, Jade, tu es résident au Basement, qui est, tu peux nous expliquer un peu. Puis le Basement est resté ouvert pendant toute cette période. Tu peux nous.
Au fait, non, le Basement a été fermé. On a refusé d'ouvrir nos portes quand, à quelques kilomètres, il y avait des gens qui souffraient. Donc, on a fermé nos portes alors que vers la montagne, il y avait une zone où plein de boîtes ont déménagé. Ils ont ouvert dans cette zone et les gens sortaient comme si de rien n'était. Et après 3 semaines, on a décidé de faire une soirée, de prendre un lieu en haut. Le village, c'était Brummana. C'est un village assez friqué, on dit ça, on peut dire ça, non ?
Assez bourgeois, oui.
Ouais, donc on a...
Épargné par les bombes, c'est ça ?
Exactement.
En fait, toute la région montagneuse du Liban était épargnée durant cette guerre-là.
Et au fait, le Liban, une des choses qu'on constate, c'est le grand contraste qu'il y a dans notre pays. Donc, un de ces contrastes aussi, durant la guerre, il y avait des gens qui faisaient la fête ou bien qui essayaient de faire leur job comme d'habitude, alors que d'autres gens essayaient de gagner leur vie. Donc, on a loué un lieu et on a participé, on a fait un blog en 3-4 jours, on a envoyé des messages, on a dit qu'on fait une soirée sans profit et on donne tout l'argent à une ONG qui s'appelait Mouatinoun, qui veut dire... citoyen. Et le but de Mouatinoun, c'était de chaque jour préparer des repas pour tous les réfugiés qui ont fui le sud et qui se sont installés à Beyrouth. Donc on a fait le Basement, a juste organisé une soirée. On s'attendait à 200 personnes, on a eu 600 et il y avait des gens qui, ça faisait 3 semaines ou 1 mois, qui se demandaient si leurs amis ont évacué, il y avait des problèmes de communication, il y avait plein de... Donc c'était un esprit, une soirée très positive. Et grâce à cette initiative, il y a plein de DJ en Allemagne puis en France qui ont été invités à jouer au Basement, qui ont envoyé plein de mails. Il y a eu des projections de tous ces mails et les DJ, on a organisé avec eux des soirées, une soirée à Watergate à Berlin, une soirée au Rex à Paris et une soirée au Key à Londres, des soirées qui s'appelaient To Beirut. Et le but de ces soirées, on projetait des vidéos du Liban, tout l'argent allait à la Croix-Rouge libanaise et le club, il nous offrait la porte et tous les DJ de chaque ville. Et c'est des grands noms, donc on a eu Mandy T-Schwartz en Allemagne, ici on a eu le support de Cardini, on a eu Manuel Malin, donc plein de DJ, ils ont offert leur participation. Donc on a pu créer, on a pu envoyer un certain message.
Et toi, tu as enregistré une compile aussi pendant cette période de guerre qui s'appelait Minimal Resistance ?
Oui, c'était la compile durant la soirée qu'on a fait à la montagne, la soirée Minimal Resistance.
Et y a autre chose qui a été réalisée pendant la guerre, c'est Moonma. Tu peux nous en parler, Ziad ?
Autour de la même période, je ne sais plus si c'était la même semaine que cette soirée-là, c'était ou juste avant ou juste après, un endroit proche, voisin du Basement a essayé d'ouvrir un soir pour réaliser un concert avec 2 groupes de rock libanais. L'endroit s'appelle le Club Social. Et on a essayé de faire un concert avec les New Government, qui est un groupe plutôt pop-punk, et les Scrambled Eggs, qui sont un groupe pop-punk. On a lancé la soirée et on n'a pas pu la réaliser à la fin du compte parce qu'on a eu peur qu'il y ait des bombardements, qu'il y ait des victimes, etc. Les concerts ont eu lieu, mais sans qu'il y ait de public, il y avait juste les amis des groupes et la presse. Et moi j'étais présent à ce concert et l'énergie dégagée par les groupes était tellement magnifique que je me suis dit que c'était dommage de ne pas essayer de la capturer. Donc on a enregistré un disque avec l'un des 2 groupes, les Scrambled Eggs, quelques semaines plus tard, dans un studio aussi de la montagne, épargné une autre montagne cette fois, Balloune. On a enregistré 5 morceaux en studio avec eux et puis par la suite 5 ou 6 autres morceaux avec un groupe électronique libanais qui s'appelle Moonma. Et les 2 albums, qui sont en fait 2 EP de courte durée, 30 à 35 minutes chacun, sont sortis autour du mois de novembre, je crois, donc après que la guerre se soit terminée et que les endroits aient réouvert leurs portes et qu'on ait pu inviter les gens à venir au lancement des CD. On a fait une soirée avec le lancement de chaque CD et des concerts à la clé.
Bah, on va écouter un extrait de Moonma. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette scène artistique libanaise ? Quelle est la touche libanaise ?
Si je devais poser la question à Jade, il me dirait qu'il y a une certaine mélancolie qui est présente dans toutes les sorties, dans tous les morceaux, dans toutes les plages de tous les groupes indépendants libanais. C'est ce qu'il m'a dit il y a quelques jours quand on cogitait sur l'interview et sur la conférence qu'on allait faire ici à Aix dans quelques jours. Et j'y réfléchis. Et effectivement, c'est pas vraiment de la tristesse ou de la mélancolie, à mon avis, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de profondément triste.
Un peu sombre, ouais.
Un peu sombre, voilà. Pas seulement mélancolique, mais effectivement très dark, très sombre. Que ce soit dans la musique de ce jeune homme qu'on est en train d'écouter ou des groupes plus orientés rock. Parfois, ça se reflète aussi dans les paroles. Les Scrambled Eggs ont des paroles extrêmement violentes, très déprimées. Que ce soit au niveau de la situation politique du pays ou des relations entre les êtres. Il y a une certaine désinvolture qui s'installe, qui s'instaure dans une ville qui est presque constamment en guerre. Quelque part, j'ai l'impression qu'on perd pas le goût de la vie humaine, mais la valeur de ce que la vie humaine représente. Et ces groupes-là, du moins les plus brillants de ces groupes-là, on sent ceci dans leur musique, à mon avis. C'est assez personnel, mais c'est ce que je ressens.
Et quelles disciplines sont représentées? Qu'est-ce qu'on peut voir et entendre à Beyrouth?
Musicalement,
un peu...
Des klaxons. Il y en a beaucoup.
C'est vrai que c'est une ville
c'est
très
dur.
Bruyante.
C'est non, une... c'est dur. Les klaxons.
Au niveau musical, ça va du punk à la... On parle de scène alternative. Donc, dans la scène alternative, il y a du punk, il y a du rock, il y a beaucoup d'influences années 60, années 70, rock psychédélique. Le groupe de Jade, Blend, à ses débuts, quand il commençait et qu'il s'appelait encore Léviathan, reprenait souvent Pink Floyd. Donc, le rock britannique et américain des années 60 et 70 est très représenté, même dans ce qui se fait aujourd'hui. L'électro existe sous sa forme dance floor avec les remixes de Jade et le groupe Lumi. Il y a aussi des choses beaucoup plus ambiantes avec Charbel qui est à présent sur scène et avec Moonma que l'on vient d'écouter. Les musiciens libanais aussi sont souvent impliqués. Il y a un certain caractère cinématographique, je trouve, dans beaucoup de leur musique. C'est des gens qui s'impliquent beaucoup aussi au niveau du cinéma, qui enregistrent souvent la musique de films, de vidéos, etc. Donc il y a aussi cet élément très, très cinématographique.
Et au niveau des influences, là tu évoquais les influences un peu britanniques. Est-ce qu'il y a aussi des inspirations libanaises pour cette scène, pour cette scène alternative?
Je pense que... je peux prendre la main?
Vas-y.
Je pense que les inspirations libanaises sont juste des inspirations orientales parce qu'il y a eu plein de musique orientale qui nous a influencé, Fairouz, Oum Kulsoum par exemple, pas nécessairement libanaise, mais en tant qu'influence libanaise pour ce style de musique alternatif, je pense qu'on est en train de faire l'infrastructure, on dit ça, c'est juste le début d'une scène maintenant, donc Il faut attendre un peu pour que les groupes actuels commencent à être une référence pour plus tard.
Il n'y a pas eu de précurseur libanais, en fait.
C'est ça. Je pense que la scène a commencé, cette scène alternative a commencé fin des années 80 et début des années 90, donc c'est ça.
Il est encore peut-être un peu trop tôt pour vraiment déterminer quelle est la part de l'héritage musical des années 40, 50, 60, etc. sur la scène actuelle. Mais c'est-à-dire qu'à bien y réfléchir, dans la musique du groupe Blend, par exemple, il y a une utilisation du violon oriental et de la percussion orientale qui est extrêmement frappante, à mon avis. Dans certaines performances de la scène improvisée expérimentale libanaise, il y a souvent l'utilisation de vieilles voix à travers des vieilles radios traficotées qui font irruption ces voix dans leur musique. Dans les groupes électro comme Moonma, il y a souvent c'est assez embryonnaire en fait. Ils utilisent, en fait, c'est des petits samples qui s'incrustent par-ci par-là. Effectivement, comme Jade le dit, c'est pas vraiment au point.
Et est-ce que cette scène,
il ne faut pas oublier que ce n'est pas notre culture. Il ne faut pas dire que c'est notre culture. Donc ça commence.
Comment ça?
C'est-à-dire que, en Allemagne, la techno est devenue quand même leur culture. Alors que nous, c'est ça.
Ce sont des musiques qu'on a attrapées de l'extérieur. Quand un groupe comme les Scrambled Eggs enregistre 5 morceaux, 5 brûlots punk de 3 minutes chacun, c'est pas nécessairement né de leur écoute des CD de Fairouz et Oum Kulthoum. Il est difficile de faire l'analogie en fait. Ça vient d'autre part. Leurs influences sont autre part. Donc je pense que c'est ça que Jade veut dire quand il dit c'est pas notre culture. C'est pas de là que vient notre inspiration musicale nécessairement.
C'est une réappropriation d'une certaine culture alternative occidentale.
Voilà. Ouais. Et s'il doit y avoir appropriation de la culture musicale du Moyen-Orient, il faut effectivement beaucoup plus de temps que 10, 12, 15 ans.
Et est-ce que cette scène donc, culturelle alternative libanaise est isolée du reste du Proche-Orient ou est-ce que des liens se font avec des scènes alternatives des pays voisins ? Comme Israël, la Syrie et l'Irak, si on peut imaginer qu'il y en ait une en Irak.
À mon avis, les scènes musicales des autres pays sont beaucoup moins alternatives que celles du Liban, à ma connaissance. Je sais qu'au niveau du rap, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence, d'efforts des pays voisins. La Palestine, la Jordanie ont des scènes rap assez pointues, on va dire. Je sais cela parce que récemment, il y a eu des concerts organisés en Jordanie par des Libanais, où des groupes libanais sont partis jouer là-bas, et où il y avait aussi des groupes jordaniens ainsi que des rappeurs palestiniens. L'apport alternatif rock ou électro était entièrement libanais. Par contre, il y avait un certain apport jordanien et palestinien rap. Je ne sais pas s'il existe une scène rock alternative en Syrie ou en Jordanie.
En Israël.
On n'a pas le droit de créer des liens avec Israël. Parce que c'est impossible, on ne peut pas aller visiter, ils ne peuvent pas venir visiter. Je voulais juste dire que le Liban, en tant que pays au Moyen-Orient, est le pays qui a eu le plus d'ouverture envers l'Occident. Au fait, un truc un peu, une info un peu drôle, c'est qu'au Liban, il y a à peu près 3 500 000 Libanais, alors qu'en dehors du Liban, il y a plus de 15 millions de Libanais. Donc on peut un peu comprendre pourquoi il y a cette ouverture et cet import en masse. Donc c'est normal que ça soit un peu plus, je ne veux pas dire développé, mais un peu plus proche de l'Occident que les pays autour de nous. Donc la scène est un peu, pas avancée, mais un peu à l'écart aussi.
Et puis les pays arabes voisins, des pays comme l'Égypte, la Jordanie, qui sont sans doute des pays des pays beaucoup plus riches que le Liban. C'est des pays qui musicalement sont entièrement bouffés par la culture pop. Et si un groupe ou une entité musicale désire faire quelque chose d'un peu différent, elle aura beaucoup beaucoup de mal à s'exprimer dans une culture qui est quand même beaucoup plus orientée pop. Tu ne penses pas ?
Oui, mais aussi. Il y a un certain niveau de culture dans le pays. Genre les gens, ils parlent 3 langues, ils apprennent ça à l'école. Donc au Liban, je ne veux pas dire que c'est bien, mais au Liban, on n'essaie pas de préserver notre arabisme, on dit ça.
À tout prix.
C'est ça.
Et justement, à propos de la langue, en quelle langue se joue cette musique indépendante libanaise ?
En plusieurs langues.
En plusieurs langues, oui, c'est assez mélangé. En anglais surtout, en français, les rappeurs switchent souvent de l'anglais au français à l'arabe. Sur le disque de Blind, on peut retrouver un duo entre Jad et un rappeur qui s'appelle Reyes Bek, où le rappeur chante en arabe et Jad en anglais. C'est assez mélangé, oui. L'utilisation courante des 3 langues dans le pays se reflète dans la musique aussi.
Bon. Charbel vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, on va te laisser t'installer et en attendant, on va passer un peu de hip-hop libanais, rappé en 3 langues, justement, arabe, français et anglais, par Ziad, si tu peux m'aider pour la prononciation, Akser,
qui signifie en fait dans le sens contraire du trafic, en contresens, voilà, en contresens.
Ok, et le titre s'appelle Freedom.
Man, c'est pas une interlude, musique dérivée du sud. Je réside par les rimes du site, mais plutôt mes rimes en sade. À quoi bon lever le sel? Tu prends quel nom sans nous soude? Sans ta canne au rôde en cire, nous stab à la bouche inside. Rakid, c'est 3K en leur héritage chiné. Pendant que mon père pas chiné, les factures pour le pas gelé. À quoi me sert le bled? T'as pas m'enrouler des bêtes. بركي واحد يجن بالهاد يزيد فاشي كل شي مثل عملك ابو لادن بركي مش عايد الحل مش بدك لا تتحل فيك ضلك دبلوماسي عم تتصرف مثل الغول اللي شو مفروض يصير بعد كل يال صار مو غبي ما تشوف بس شو ضلني ماشي معك السير راسي هاي وسي ديور كود لاسي ايش لا فوق اسيا صاكو فوق كل سي ميسيو او ميسيو تو ان بري دو مي لي سلاس ملاس دي ماليس فوق ملي على ملاس ملاس خليني مش فاهم شي بالشي غير بفكر شو انه بسبع العشيه
Eh oh, me bouscule pas, t'as le bitch, y'a pas d'égo. Ramène ta pourriture, mal, ça n'a jamais fait des gars, c'est dégueu. Mais j't'avoue, j'éprouve du dégoût quand t'es que. L'imitation mal en tout cas. Même quand t'as pas sa fouille, y'en a qui sort le tapas, t'as t'es pas tort. Ouais, vu que t'as pas tête, tu t'attends une sombre vite, des gammes, des carrés, des cols. Le programme à ton grand bec, y'a que des conneries qui découlent. Lesquelles? Tu fais la femme en abus sexuel. Ma tactique de vente, de marketing promotionnel. Sur un beat de barge, je sors de l'érix de berge. Des gammes produits de conso et gratuits, ensuite les bourges.
Jade, tu voulais apporter une petite précision au sujet de ce morceau ?
Oui, au fait, on avait choisi ce morceau parce qu'il y avait les trois langues. Mais ce morceau a été fait en 2000. Je pense qu'il avait enregistré un an ou deux ans avant la sortie de la compile. Donc c'est, le groupe a évolué, le gars a fait ses propres trucs, la prod a vraiment a évolué.
En fait, le gars qui chante avec Raksasser, le bonhomme principal, s'appelle Wael Edeh. Il a un projet solo maintenant qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on vient d'écouter, mais où il chante uniquement en arabe, qui s'appelle Ray Esbek. Ça vaut la peine de le mentionner.
Bon, merci Charbel de nous avoir rejoints. Ça s'est bien passé ?
Ouais. C'était un peu stressant. Ordinateur, c'est toujours stressant.
Bon, alors on va poursuivre notre petite discussion avec toi aussi maintenant. Quelle place occupe cette scène alternative à Beyrouth ? Est-ce qu'elle est très marginale ?
Oui, donc oui, c'est très... déjà c'est marginal en Europe et Beyrouth, il y a pas beaucoup de monde qui habite Beyrouth, alors c'est encore plus marginal à Beyrouth, mais ça évolue bien. En fait, les auditeurs n'évoluent pas à la même vitesse que les musiciens de cette scène-là.
C'est très vrai, parce qu'il y a pas assez de médias qui voilà. Qui médiatise tout ça.
Qui favorise l'éclosion de cette scène.
Justement, Ziad, toi, tu animes une émission à la radio. Tu peux nous parler un peu du paysage radiophonique libanais ?
À ma connaissance, à part Radio Liban, la radio où moi je travaille, qui est la radio du gouvernement, les radios sont entièrement axées sur les succès commerciaux anglais, américains, français, etc. Même au sein de Radio Liban, il y a peut-être juste un ou deux animateurs qui se préoccupent de ce qui se fait en marge, en parallèle des succès commerciaux. Donc le paysage musical radio est assez terne, du point de vue rock, jazz, musique du monde. En électro, par contre, il y a une radio qui est assez intéressante, qui fait des choses différentes, qui s'appelle Mix FM. Donc pour l'électro, ça serait Mix FM. Pour tout le reste, ça serait Radio Liban. Et encore, c'est... par exemple, à Radio Liban, on n'a pas assez de retours de notre audience. Donc, parfois, certaines semaines, certains mois, j'ai vraiment l'impression que je travaille entièrement dans le vide. C'est-à-dire que je n'ai aucun retour, aucun recul. Je ne sais pas qui m'écoute, qui ne m'écoute pas.
Je t'écoute, Ziad.
Voilà, il m'arrive de découvrir que telle ou telle personne m'a écouté. Mais,
nous non plus, je te rassure, sur Radio Grenouille, on n'a pas de retour du public. Mais alors, du coup, où est-ce qu'on peut entendre cette musique alternative dans des lieux bien précis de Beyrouth? On a parlé un peu déjà tout à l'heure du basement, du club social. Vous pouvez nous les présenter un peu?
Le basement.
Oui. Surtout pour... pour le rock, ouais, il y a le basement et tout ça. Il y a le basement. Club social, on a fait des concerts aussi à un moment.
Oui.
Et quoi
en fait, est-ce que la question était posée par rapport au concert ou par rapport au set DJ ?
Parce que... à tout, je pense.
Ouais, à l'ensemble de cette scène alternative. Donc, puisqu'on disait qu'on n'entendait pas grand-chose à la radio.
Il y a eu des endroits comme Club Social, comme Babylon avant, comme le Lila Brown, comme Zinc, où il y a des DJ comme Ziad, comme moi, on passait des trucs qu'on écoutait chez nous et les gens étaient plutôt
réceptifs.
Avec le temps, c'est devenu de plus en plus dur parce qu'il y a eu plein d'autres endroits qui ont ouvert. Donc beaucoup de compétitions. Donc les owners de boîtes, ils veulent prendre de moins en moins de risques. Donc d'où le changement du style du Zinc, là où Ziad mix. Et puis il y a eu Club Social en 2003, le premier club social, un petit endroit pour 75 personnes, un bar au fait. Le proprio est un businessman, mais qui écoute de la très bonne musique et qui voulait faire un truc pour s'amuser. Donc il a fait un endroit où la bière se vend à 2 dollars, genre 1 euro et quelques. Et c'était un endroit où tous les artistes allaient buvaient et on écoutait des bons DJ. Puis après ça, Club Social a évolué, il a fermé, il a ouvert un plus grand endroit et il est devenu moins sélectif aussi.
Moins sélectif. Effectivement, comme le dit si bien Jade, quand il y a une tendance au commercial, les patrons d'endroits paniquent et se disent non, arrête, ne me joue plus ce genre de truc.
Mika, c'est très bien, ça cartonne.
Ouais, Mika, Justin Timberlake. Donc les patrons des endroits mettent la pression sur les DJ pour faire plaisir à un maximum de gens. Et quand tu fais plaisir à un maximum de gens, inévitablement, tu t'éloignes de ce qui est bien.
Tu fais de plus en plus de compromis, en fait. C'est une question de compromis. Et le basement était un résultat de l'ancien club social. Parce que quand je mixais à l'ancien club social, on commençait nos soirées avec de la musique du monde, de l'électronica, du down-tempo, de l'alternatif. Et ça évoluait, donc vers minuit, minuit et demi, c'était de l'électro, mais c'était un petit endroit. Donc il y avait tellement de gens qui venaient et on a remarqué qu'il y avait une scène. Donc j'ai parlé au proprio de Club Social, je lui ai dit écoute, il y a une scène techno, électro assez avancée ici, ils veulent un club, je suis sûr que si on ouvre un club ça va marcher. Et tout de suite il a aimé l'idée et on a fait le basement, lui et moi. Et le basement, le but du basement était d'être un club avec une bonne sono où on passait de l'électro, de la techno assez pointue, pas comme dans toutes les boîtes. Et aussi, le basement était conçu depuis le début comme une scène. Donc tu rentres et au fond, tu peux déjà installer une scène. Et au début, tu as un endroit pour l'ingé son parce qu'on voulait une scène aussi pour que tous les groupes locaux puissent se reproduire parce qu'il n'y avait pas une scène... pour ça, et c'est de la bonne sono, donc ça marche pour le live, ça marche pour les DJ. Et c'est là-bas qu'on a eu plein d'invités internationaux, c'est eux qui nous ont aidés à faire les soirées pour le Liban, ailleurs, et c'est là où des groupes libanais comme Scrambled Eggs, Moonma et plein d'autres groupes se reproduisent.
Et du jazz aussi. Donc c'est pas seulement alternatif, mais ça peut être aussi du jazz alternatif. Donc les musiciens de jazz pas très connus en ville se sont aussi produits au basement. Il y a eu une très belle série de concerts jazz là-bas.
Donc il y a une série de lieux comme ça qui se succèdent un peu à chaque fois. On a l'impression à vous entendre que c'est un lieu du moment. Et tous ces lieux, ils se situent dans le même quartier ?
Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'il y a une facette de Beyrouth qui est absolument fascinante. Qui est que un endroit apparaît, éclos, dans une certaine location. En fait, oui, effectivement, il y a des secteurs qui sont plus prisés que d'autres, mais dans ces secteurs-là, un endroit apparaît, ouvre, rassemble une certaine clientèle, fonctionne pendant 6 mois, ferme, il y a un autre endroit qui ouvre exactement sur la même location. Et ainsi de suite. Donc c'est par rapport aux endroits de nuit, que ce soit les pubs, les restaurants, les bars, ou c'est très marrant, c'est comme... C'est comme les scènes de films où on voit un truc monter en accéléré et puis dépérir et puis remonter en accéléré, c'est ça. Les endroits poussent comme l'herbe et puis arrêtent parce qu'il n'y a pas de clientèle et puis le même endroit sous un autre nom et ainsi de suite.
Mais pas le club social ni le basement, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'ils sont là, donc il y a une clientèle assez fidèle, un peu spéciale, un peu différente, un peu alternative. Donc, et c'est cette clientèle qui lui est fidèle, qui fait que ça, que c'est toujours là.
C'est une minorité quand même, les endroits qui restent, qui persévèrent.
Oui, il y en a 3-4 peut-être.
Et cette clientèle, comment elle se caractérise? Est-ce qu'elle reflète la pluralité de Beyrouth?
Peut-être
au niveau social, au niveau confessionnel?
Non, pas vraiment. Ça vient des tranches sociales assez bourgeoises, un petit peu, on va dire. Oui, plus. Surtout à Beyrouth. C'est vrai ça, non?
Écoute, ça dépend. Non, je ne serais pas tout à fait d'accord. C'est pas nécessairement.
Personne n'est d'accord avec moi, apparemment.
Peut-être les endroits.
Moi, c'est ce que j'avais plutôt entendu.
Peut-être
aussi,
les endroits que toi, tu fréquentes, Charbel.
Oui, moi, j'adore fréquenter des endroits bourgeois. J'aime les bourgeoises. Je ne sais pas, peut-être dire bourgeois, c'est un peu exagéré, mais un petit peu une certaine.
Aisé.
Il y a beaucoup d'élitisme à Beyrouth. Plus les gens qui sont dans les milieux alternatifs à Beyrouth sont assez élitistes. Non.
Ça oui, c'est vrai, mais toi t'es en train de faire quand même une référence monétaire.
Oui. Vous n'êtes pas d'accord. Non, mais c'est moi j'aimerais bien voir aussi des choses se passer en banlieue un petit peu, ce qui n'est pas le cas. Tout est vraiment très centralisé. Dans Beyrouth, il y avait avant pendant les années 90, il y avait des endroits assez underground comme le Strikes. Tu veux vous rappeler de ce truc où il y avait des trucs comme Spliff, un groupe de hardcore. C'est ce genre de. Vous vous rappelez de ça?
Ouais, ouais.
En fait, je crois que la différenciation est plutôt géographique qu'autre chose. Donc, dans les régions est de Beyrouth, qui sont quand même les régions où il y a le plus de bars, le plus de restaurants, ouais, etc., c'est une clientèle assez bourgeoise, friquée, etc.
Voilà.
Par contre,
je savais que j'avais raison.
Dans un secteur comme Hamra, oui, et dans des endroits comme le Regusto ou le Baromètre, etc., ça diffère absolument.
Oui, c'est vrai.
Et mais le basement, il est où?
Exactement. Le truc, c'est que...
À la croisée des chemins.
La scène alternative est très petite. Donc, c'est pour ça que la majorité des endroits s'adressent aux masses. Donc...
D'accord. Et, et au niveau des moyens de production, de quoi les artistes libanais disposent localement? Est-ce qu'il y a une politique de soutien, une politique nationale de soutien de la production de la scène?
Pas encore.
Très pauvre.
Ils disposent de beaucoup d'amis, en fait.
Ouais.
Ouais, la production se fait entre amis.
C'est des petits endroits.
Des gentils mécènes.
Ouais.
C'est des magasins comme la CDTech,
ouais,
des clubs comme le Basement qui constituent, ouais, des petits noyaux, et en même temps, c'est un réseau où on est tous amis.
Parce que les grosses boîtes de production, des boîtes comme IAM, en fait à Beyrouth il y a trois boîtes qui sont installées, c'est EMI, Universal et Sony. Ces trois boîtes là qui font la distribution de CD, de cassettes, etc. Au Liban, sont plutôt axées sur les circuits pop.
Les chanteuses qui se ressemblent en plastique, les vidéoclips en masse.
Et même quand c'est pas ces chanteuses pop là, c'est des trucs un peu plus rock, c'est aussi assez mainstream, assez formaté si l'on veut. Donc pour le genre de groupe que sont les Scrambled Eggs, la Chambre, Moonman, etc., c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Il faut s'adresser à des toutes petites entités qui n'ont pas toujours les moyens ni promotionnels ni financiers pour leur faire le backup nécessaire.
Alors, quelles entités? Il y a des labels locaux qui se sont montés? Toi, tu... Ouais. Charbel, tu veux dire quelque chose?
Oui, c'est des labels. Il y a des labels, surtout pour le moment, il y a juste des labels. Il y a deux labels à Beyrouth. Trois. C'est des tech indépendants. Quatre même. Il y a Forward Music, un label de musique de fusion, jazz fusion. Il y a la CD Tech qui a un catalogue assez éclectique.
Qui fait Incognito.
Ah. Et il y a deux labels de musique expérimentale, Al Maslach et Those Kids Must Choke.
Et Mouze.
Mouze s'est désintégré maintenant, malheureusement.
Donc, bon, on va peut-être juste demander à Ziad, comme lui il connaît bien le label de la CD Tech. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne?
De label, c'est en fait la CDTech est un magasin de disques à Beyrouth qui s'est spécialisé vers la fin des années 90, début des années 2000 dans tout ce qui était alternatif, indépendant, marginal, etc. Et qui, il y a 2 ans de cela, a lancé une société de distribution qui s'appelle Incognito, qui a commencé par se spécialiser dans tout ce qui est jazz oriental, musique orientale, du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Égypte surtout. Et parce que ces sorties-là, ces artistes-là, ces disques-là ont rencontré beaucoup de succès dans le pays et alentour, ils se sont permis de lancer des produits alternatifs comme les Scrambled Eggs, comme Moonma, et ils ont aussi repris la distribution de Muse qui s'est désintégrée. Et Muse avait quand même un catalogue assez important, que ce soit de rappeurs, d'électroniciens, de rockers, etc., qui a été repris par Incognito, par la CDTech. Donc c'est un label qui fait dans le
commercial
le commercial alternatif, si l'on veut, si l'appellation peut exister. Donc le bon jazz oriental, le bon oriental, un peu loin des sentiers battus, et aussi les choses plus alternatives, que ce soit en rap, en rock ou en électro.
Mais alors est-ce que justement les artistes ne se donne pas davantage de liberté et s'autorise à expérimenter plus parce qu'ils n'ont pas de compromis commercial à faire. Il n'y a pas de grosses structures derrière, de grosses majors, et donc il y a moins de pression commerciale.
Mais c'est ce qui se passe partout dans le monde, je pense.
Oui, ouais. Mais comme à Beyrouth, vous disiez, il y a très peu de structures.
Ouais, mais au fait, à Beyrouth, tu vois, maintenant, on est en train de voir les débuts. Et c'est pour ça qu'il y a des entités qui se perdent, il y a des entités qui se forment, donc il manque un peu de consistance, et ça vient avec le temps.
Il y a quand même une scène de musique improvisée expérimentale extrêmement, on va pas dire talentueuse, mais extrêmement riche. Le talent est là, mais il a encore besoin d'être nourri pour éclore. Mais il y a une scène improvisée expérimentale qui est quand même assez fabuleuse, dans le sens où elle s'exprime à fond.
Elle s'exporte aussi.
Et elle s'exporte beaucoup. Les acteurs principaux de cette scène expérimentale voyagent souvent, comme Charbel, comme Mazen Karbaj et quelques autres. Et là, dans cette scène-là, les musiciens se lâchent, oui, effectivement. Mais je ne sais pas comment ça se passe au niveau du retour des critiques internationales.
Il y a eu pas mal d'articles dans The Wire,
qui est quand même un magazine de musique,
ouais.
Une référence, ouais. Mais aussi c'est quelque chose qui touche une minorité.
Oui, bien sûr, toujours. On parle toujours d'une minorité. Oui. Non, mais il y a eu beaucoup d'attention du côté de Wire et un peu des Inrecruptibles, Signal to Noise et ce genre de magazine un peu radical.
On va faire une petite pause et écouter ce qui est encore une exception dans le paysage musical libanais, c'est Blend, un groupe qui a signé chez la major EMI. Jade, c'est ta voix qu'on vient d'entendre. Tu étais donc auparavant le chanteur de ce groupe rock qui a réussi à signer chez EMI, ce qui est une exception notoire au Liban. Est-ce que ça vous a permis de vous exporter ?
Pas vraiment, on n'a pas eu le temps. On a fait cet album en 2003, 2004, et puis on s'est séparés un an plus tard parce qu'on avait de différentes visions musicales.
Des divergences d'opinion.
Ouais. Donc là, je suis en train de faire mes trucs. Eux, ils font du rock.
Et tes relations avec EMI ?
Ils attendent à ce que je passe quelque chose, mais quand on a signé cet album, EMI s'attendait à un truc plus commercial. Donc, quand on était en train d'écrire le deuxième album, on s'était dit, on a essayé de faire un truc un peu radio, mais ça marchait pas, donc c'est ça.
Et faute de moyens au niveau local, de nombreux artistes libanais sont en quête d'aide étrangère, il me semble. Est-ce qu'il y a des possibilités de financement par des fonds américains ? Et j'ai entendu parler de l'épopée LCI. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé ?
Mais on n'a rien vu. Est-ce que on n'a rien vu ? Il y a eu plein de, je pense, plein d'essais, mais.
Il y a eu une tentative de financement de cette boîte de production américaine, LCI, qui a pointé son nez au Liban après la dernière guerre, la guerre de l'été 2006. Et cette boîte voulait reprendre trois des groupes phares, on va dire, de la scène alternative, donc deux groupes rock, un groupe électro. Et donc il y a eu des promesses, des contrats qui ont été signés, et puis par la suite, je crois que l'entreprise en entier a capoté. Et plus rien ne s'est fait, rien n'a été sorti, et ces pauvres artistes ont dû se recentrer sur la CDTech, Incognito et Muse.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des intérêts américains qui essaient de se servir des artistes libanais pour faire des choses, d'autres choses ? Pas forcément.
Oui, au niveau musical, je ne suis pas au courant d'autres choses que la LCI, la fameuse LCI. Je sais que d'autres associations plus orientées vers l'art contemporain, vers le théâtre, vers la vidéo, l'installation, la performance, sont souvent subventionnées par l'Amérique. Comme HK Lalouane, l'association libanaise pour les arts plastiques, qui je crois, reçoit des aides étrangères de l'Amérique.
Non, mais ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'il n'y a pas...
Non, il n'y a pas eu ça. Mais on n'a pas de problème si ça a lieu.
Mais des sociétés factices américaines qui se serviraient des artistes...
Mais tant mieux s'ils font ça.
Tant mieux.
Tant mieux, oui.
Même si c'est pour aller vendre des armes.
Ah.
Voilà, si c'est du blanchiment d'argent.
Ah non, je ne pense pas. Non.
Il y a des rumeurs qui courent quand même.
Non, bien sûr.
Pas blanchir dans le monde de la musique.
Ouais, exactement.
Je ne sais pas si c'est le bon plan.
Non, pas
il y a l'immobilier qui est beaucoup mieux.
Il y a eu des rumeurs louches autour de LCI quand ils ont.
Oui, oui, on disait que. Ouais, non, mais non, je ne crois pas.
Non.
Je crois que c'était un
peu conspiré. Il y a beaucoup d'autres moyens pour faire ça.
Oui.
Au fait, il y a toutes les chanteuses libanaises qui font de la pop. Pourquoi
ils vont
se diriger vers nous ? Il y a plein d'argent qui est versé. Des pays arabes, de l'Arabie Saoudite ou de plein de chers pour subventionner la radio Rotana, la station vidéoclip pourri Rotana avec donc c'est ça. Il y a la pop, on est juste une petite scène alternative. Donc s'ils veulent profiter de la scène, ils vont surtout se diriger vers la pop, pas vers nous.
Je sais pas s'ils remarquent notre existence.
Exactement.
En fait. Je doute.
Ouais.
Trop petit. Ouais, ouais.
Ouais. On n'a pas de présence radio, on n'a pas de présence à la télé, rien du tout quoi.
Je sais pas, passer un message subliminal à travers les scrambles, peut-être ça touchera 200 personnes.
Ouais. C'est ça.
Bon, on peut écouter Soapkills.
Ouais. Soapkills était c'est le premier groupe qui a fait vraiment une fusion d'une musique électro, dub, down tempo avec des voix. Arabe. Au fait, pas juste arabe. Le truc qui était spécial avec les Soapkills, c'est que la chanteuse chantait en libanais, le dialecte. Alors qu'avant elle, il y avait Fairouz, il y avait quelques chanteuses qui ont fait ça, mais c'est le mélange de ce langage, de ce dialecte, le libanais, avec cette musique qui était la musique à l'époque, qui était la musique in en Europe. On parle 98, 99, 97. Thank you.
فين ليه انا مش خايفين وليه بكين ليه انا مش بكين وليه هربين ليه انا مش هربين وليه وليه منك رجال وليه منك رجال وليه منك رجال وليه شو هالرجال وليه ليه زعلان ليه انا مش زعلان وليه خايفين ليه انا مش خايفين وليه بكين ليه انا مش بكين وليه هربين ليه انا مش هربين وليه وليه منك رجال وليه منك رجال وليه منك رجال وليه شو هالرجال
temps passe vite, très vite, trop vite. Je suis désolée de vous annoncer qu'on va être obligé de s'arrêter là.
Hélas.
Hélas, c'était très sympa. Un grand merci à Ziad Naoufal, Jade et Charbel. Merci aussi à Amélie pour la sélection musicale, à Olivier à la technique, et surtout à vous qui nous écoutez. On termine en musique avec Sid & Nancy, un titre de La Chambre, le projet que Charbel a enregistré tout seul dans sa chambre béroutine.